Radio Estable.
Morning Edition from NPR News.
Un santito de la house.
Radio Rosana Piperi.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
On savait que la mer menace, mais de cette manière, on n'attendait pas cela. On est très vulnérables.
Des maisons effondrées, des pêcheurs empêchés, vous l'avez entendu, très vulnérables à cause du percement d'une brèche au sud de Saint-Louis du Sénégal. Beaucoup de promesses ont été faites, notamment d'ailleurs par le président français. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Amélie Perrier est sous les radars, vous l'avez entendu, à Washington, en Côte d'Ivoire et aussi au Japon. Tout cela en rapport avec Notre-Dame, 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyce avec une pub pour Ikea anodine. Mais justement, c'est ça qui la rend formidable. Vous verrez aussi que celle qui a participé à la découverte du trou noir a besoin d'expliquer qu'en effet, elle n'était pas toute seule. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Vaux. Vous verrez que la cathédrale qui brûle, c'est une occasion pour les autres de parler de nous tels qu'ils nous voient et aussi d'ailleurs de parler d'eux. Allez, en attendant, je vous emmène à Londres. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
C'est comme un bonbon, un livre de David Lodge, un souvenir aussi de quelques années en arrière quand même, quand nous sommes très nombreux à avoir commencé par lire La chute du British Museum pour passer ensuite à la trilogie universitaire, un peu plus tard La vie en sourdine. D'ailleurs, il le dit, David Lodge, quand vous entrez chez lui dans le quartier des théâtres à Londres où il a un pied à terre. Vous savez que je suis sourd, oui, on sait, oui. Et pince sans rire, donc, le David Lodge, so British, qu'on a aussi envie de l'interroger sur ce Royaume-Uni dans lequel il vit, qu'il raconte depuis un demi-siècle et on y viendra. Il a donc commencé à écrire ses mémoires avec Né au bon moment, chez Rivage, c'était il y a 2 ans, et puis vient de paraître La chance de l'écrivain, toujours chez Rivage. Alors qu'au début, il ne devait y avoir qu'un livre et puis deux, et ben bientôt, il y en aura 3. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec lui. Il semble que parler de lui, David Lodge, y ait sacrément pris goût.
C'était fascinant de retrouver des souvenirs que j'avais complètement perdus. De parcourir toute cette correspondance que j'ai gardée. J'ai beaucoup d'archives. J'ai trouvé ça fascinant. Les 2 premiers volumes, j'ai pris beaucoup de plaisir à les écrire. Mais le 3e, j'ai plus de mal. Je pars d'un matériau pléthorique et je dois faire le tri. Et puis j'ai 84 ans. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Et pour moi, il y a un plus grand effort à fournir pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et ça me ralentit beaucoup. Pour le premier tome, j'étais tributaire de mes souvenirs, parfois vagues. Une ou deux lettres pouvaient me suffire pour traiter d'une période de ma vie. Et pour les périodes récentes, j'ai tellement de courriers, je relis tout et je n'arrive pas à intégrer tout ça dans ma tête. C'est la vieillesse. Pour moi, la mémoire est un problème.
Mais est-ce que ça veut dire que vous prenez plus de plaisir qu'en écrivant un roman? Est-ce que ça veut dire que c'est fini, la fiction?
J'aimerais bien écrire un nouveau roman.
Je n'ai pas trouvé d'idée qui ne me semble pas quelque part une redite de ce que j'ai déjà écrit.
Je n'ai pas assez confiance. Je n'avais pas assez confiance en les idées que j'avais pour nourrir mon désir de m'engager dans une telle entreprise, parce que écrire un roman, un long roman, c'est l'exercice le plus exigeant en littérature. De temps en temps, je repense à une idée que j'avais eue et que j'avais mise de côté. Et je me dis qu'elle serait peut-être solide. Mais je n'en suis pas assez sûr. Alors je remets ça plus tard.
En fait, vous avez peur. Et c'est plutôt courageux de dire ça quand on est un écrivain comme vous.
Mais c'est vrai. Et j'ai confiance en la vérité.
Donc votre livre, le 2e volume, se situe entre 1976 et 1995. Vous êtes au pic de votre carrière, entre Un si petit monde et la trilogie universitaire. Et ce sont vraiment vos 20 ans, David Lodge. Et on sent comme une nostalgie, une mélancolie quand on vous lit de ces années qui ont vraiment été les vôtres.
Si on lit mes romans dans leur ordre chronologique, on obtient quelque chose comme un portrait sociologique de la vie en Angleterre, en particulier chez les intellectuels, chez les catholiques, à l'époque. On y trouve une sorte de vérité historique, si vous voulez.
Ce qui caractérise aussi mes romans, c'est que j'ai vraiment rencontré le succès en écrivant des romans humoristiques. Les lecteurs apprécient vraiment les romans astucieux et drôles. C'est devenu un petit peu difficile pour moi de satisfaire cette demande d'humour parce qu'en vieillissant, la vie ne vous semble plus très drôle, en fait. Et j'en suis conscient. Mais si j'arrive encore à introduire de la comédie dans mes derniers romans, et si je finis par écrire le livre auquel je pense vaguement, après avoir terminé mes mémoires, il sera comique, en partie. Le monde change tellement vite de nos jours. Et certains de ces aspects me sont inconnus, je ne m'y aventure même pas. Bien sûr, j'utilise des ordinateurs, mais je ne me suis jamais impliqué dans les réseaux sociaux qui dominent aujourd'hui pourtant complètement la vie des gens et qui ont une influence plutôt malveillante, il me semble. Tout ça, je l'observe de l'extérieur, je n'y participe pas. Alors que mes premiers romans représentaient ma génération, vraiment. Ma vie ressemblait à celle de mes congénères.
Donc justement, 76-95, c'est la période Thatcher, vous êtes à Birmingham, qui est une ville très industrielle. Quelle part le lieu, l'époque ont vraiment pris dans votre manière de voir, de comprendre et d'écrire sur votre pays?
Mon roman sur la période Thatcher, c'est Nice Work. Et il se trouve que c'est le premier roman à avoir été traduit en français, sous le titre « Jeu de société ».
Never mind. C'est pas grave. Continuez.
And I thought of it as a novel. Et je l'avais effectivement conçu comme un roman sur l'Angleterre thatchérienne. Madame Thatcher venait d'être élue et imposait une politique monétaire responsable de très nombreuses faillites d'entreprises industrielles à Birmingham. Et dans la région des West Midlands, qui est une région très fortement industrialisée. Le climat économique était dominé par la peur. Nos étudiants ne trouvaient pas de travail. Ils ne se voyaient pas trouver un emploi après leurs études non plus. Et je suis donc parti de ce paradoxe. Tout le monde travaillait très dur, mais personne n'allait nulle part. Il n'existait aucun dialogue réel, aucune passerelle entre l'université, l'intelligentsia et le peuple.
Do you believe David Lodge that gap?
Et alors précisément, est-ce que vous pensez, David Lodge, que cet écart que vous décrivez, que vous décriviez déjà dans Jeux de société entre votre monde et l'autre monde, est-ce que c'est pas exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui a conduit au Brexit, cet écart entre deux Angleterres qui ne se connaissent pas et qui ne se rencontreront jamais?
C'est exactement la même antithèse. Il s'agit d'un fossé sociologique entre des valeurs, des attitudes, des morales, des priorités qui sont opposées. Et c'est quelque part aussi le sud qui s'oppose au nord. Et ce fossé s'est trouvé exacerbé par l'entrée dans l'Union européenne et par les tensions à l'intérieur du système politique britannique que cette entrée a généré. J'ai l'impression que vous voulez parler du Brexit, hein, c'est ça?
Sure, bah oui, c'est là que je vous emmène, oui, parce que Birmingham a voté pour quitter l'Union.
Birmingham a voté pour quitter l'Union européenne, à ma grande surprise. Mais son député travailliste était lui-même pour le Brexit. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons dans cette pagaille. Nos deux principaux partis politiques, le Parti conservateur et le Parti travailliste, qui par le passé ont toujours défendu des positions opposées, avec des périodes où l'un était au pouvoir, suivi par des périodes où c'était l'autre, mais c'était un système relativement clair. Ça fonctionnait pas mal. Mais voilà que ces deux partis sont chacun divisés, pour ou contre l'Union européenne. Et ça, c'est le meilleur moyen d'obtenir le chaos.
Mais vous avez dit que c'était une surprise. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu venir?
Je n'ai pas vu venir la révolte. La révolte des gens ordinaires, venus de l'Angleterre, des provinces, venus presque tous du nord, des Midlands, du Pays de Galles, principalement. l'est du pays aussi. Les gens ordinaires, la classe ouvrière, la classe moyenne ordinaire, se sentaient abandonnés. C'est un sentiment qui a été fortement exacerbé par la crise économique qui a suivi le resserrement du crédit. Ces gens en ont éprouvé un grand ressentiment. Et la haute société plus intellectuelle et anti-européenne a pris ces gens pour les endoctriner, pour leur dire que l'Union européenne, c'était pire que tout. Et personne n'a vu les choses venir.
J'ai lu que votre fils avait pris la nationalité irlandaise parce qu'il peut le faire.
Alors, ce n'est pas exactement la nationalité irlandaise. Il a le droit à un passeport irlandais parce qu'il suffit d'avoir un grand-parent irlandais.
Et vous avez encouragé, approuvé ou pas?
Je trouve qu'il a raison, oui. Il a deux filles, très brillantes, très jolies. Et la plus jeune, de son propre chef, va étudier l'ingénierie à l'université de Louvain. Elle a choisi de partir en Belgique. La classe libérale, disons, les progressistes, les intellectuels, les gens éduqués, qui ont fait des études universitaires, ils sont tous consternés.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, être anglais, aujourd'hui? Est-ce que vous le savez ou est-ce que ça devient trop compliqué?
Qu'est-ce que ça veut dire d'être anglais? Ça, c'est très difficile à dire. Je crains que les soupçons que portent les étrangers sur nous caractérisent effectivement les Anglais. J'ai toujours pensé que 30 km de mer qui nous séparent marque une grande différence. Notre réputation est exécrable en ce qui concerne l'apprentissage des langues. Moi, je trouve que cette crise du Brexit m'a vraiment ouvert les yeux sur les mouvements actuels dans la société britannique. Je n'habite pas dans ces régions où le sentiment pro-Brexit est très très fort. Et je ne me rendais pas compte du sentiment d'abandon immense qui prévaut là-bas. Les gens ont l'impression d'être au rebut, d'être maltraités. Et l'immigration est aussi certainement une donnée très importante dans le mouvement pro-Brexit. Et dans le fait qu'on est sur les charbons ardents maintenant, même si on a un nouveau référendum, tout peut changer.
Mais alors, le romancier en vous, David Lodge, est-ce que des fois, comme ça, dans un coin de votre tête, vous vous dites « Mais ça, c'est le sujet idéal, c'est même le décor idéal pour un nouveau roman ?»
Non, le sujet est trop vaste. En fait, quelques auteurs ont sorti un roman cette année sur le Brexit. Parmi eux, il y a Jonathan Coe, qui a beaucoup de succès en France, et qui a écrit un roman qui s'appelle « Middle England ». Et il y en a d'autres. Mais vraiment, la situation, elle est trop confuse et perturbante pour qu'on la transforme aisément en matière romanesque. Ce n'est pas du tout comme pour jeu de société.
Pour en finir et pour revenir à votre livre, David Lodge, qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est pour ça que vous écrivez vos mémoires?
Tous les écrivains, je crois, les romanciers, les artistes, écrivent pour défier la mort quelque part, pour que leur nom et leur œuvre se perpétuent. Soit vous écrivez pour distraire des livres qu'on lit dans l'avion avant de les jeter, soit vous écrivez des livres qui ont l'ambition et les qualités de la grande littérature que vous aimez vous-même. Et vous voulez tenter d'ajouter votre petite voix à cette immense pile de livres que représente la grande littérature anglaise. Et c'est pour ça que c'est pour moi une sorte de réconfort. Et une grande fierté, en fait, pour moi, de voir que tous mes romans sont encore disponibles en librairie en Angleterre, dans le catalogue courant de mes éditeurs et dans pas mal d'autres pays. Quand on arrive à ça, On se dit, à un certain point, que qu'on n'a pas vaincu la mort, non, mais qu'on a dépassé la triste pensée de se dire qu'après la mort, il n'y a rien, que peut-être quelqu'un se rappellera de vous. Écrire, l'effort que cela représente, et souvent la frustration qui va avec, ne peut s'expliquer que par le désir de laisser une trace éternelle dans l'histoire humaine. Et si vous y arrivez, vous avez bien de la chance, je pense.
Et ça vous inquiète, non, de savoir que peut-être dans 10, 20, 30 ans, on ne sache plus qui vous êtes? Est-ce que vous y pensez?
Oui, mais c'est bien probable. Lisons-nous des romans publiés il y a... Ah mais oui, on lit des romans publiés il y a 40 ou 50 ans. Mais aujourd'hui, ce sont des classiques. Et moi, je ne suis pas certain que j'entrerai dans cette catégorie.
Et ça vous embête ou pas?
Ça m'embête, non. Mais il me plaît de savoir que mes livres ne sont pas épuisés. Il y a deux façons de mesurer la réussite, selon moi, pour un auteur. D'abord, que vos livres soient disponibles. C'est-à-dire que votre éditeur pense qu'ils ont toujours un public. Et puis que vous receviez du courrier de vos lecteurs qui vous disent qu'ils ont relu vos romans, qu'ils aiment se replonger dans vos livres. Ça, ça me donne de l'espoir.
Et je vous confirme qu'on lit, qu'on relit aussi. Merci beaucoup, David Lodge. Merci à lui, donc, qu'on a rencontré à Londres. Ça a été vraiment un plaisir de l'avoir dans Un jour dans le monde. Le livre s'appelle La chance de l'écrivain. C'est le volume 2 des mémoires de David Lodge. Et c'est publié chez Rivage. Merci beaucoup, Harold Manning, pour la traduction.
France Inter, Fabienne Saintès, Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde à Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis et ses pêcheurs contraints de s'installer ailleurs. Vous comprendrez pourquoi dans l'escale reportage, Sous les radars et Amélie Perrier. Je vous conseille notamment ce patineur japonais amoureux de Notre-Dame. La chronique pour tous de Julia Foyce et la nouvelle pub Ikea. Et puis Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Quand les autres pays parlent de notre cathédrale, ils parlent de nous. Et aussi de même. Allez, le tour de la planète n'est pas fini. Et voici Leila Makkala. Money is king.
If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit murder and get off free. Live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoo. A dog is better than you. A man with money walks into the store. Shake his hand at the door. Carlton lads to take down anything. Whiskey cloth earring and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you like. And not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. A good breed and not too wild. People will take it in mind as a child. But when a hungry man goes out to beg, they send a bulldog behind his leg. 20 policemen will take him down too. You see how a dog is better than you.
Leila Makkala et Money is King sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et le retour d'Amélie Perrier. Amélie, l'incendie de Notre-Dame. On entend les messages de soutien qui viennent du monde entier. Certains passent davantage que d'autres sous les radars.
Oui, comme celui de ce tout nouveau candidat à la Maison-Blanche dont on vous parlait hier avec Grégory Phillips à Washington. Son nom est imprononçable pour les Américains comme pour les Français. Pete Buttigieg, ça ne se dit pas du tout comme ça s'écrit, mais on lui pardonne car lui fait l'effort de rendre hommage à Notre-Dame dans un français remarquable.
Peuple de France, je voudrais dire que nous partageons la douleur aujourd'hui, que la cathédrale de Notre-Dame, c'était comme un cadeau à l'espèce humaine. Et nous partageons la douleur, mais aussi nous vous remercions de ce cadeau à la civilisation.
Voilà, Pete Buttigieg, candidat à l'investiture démocrate au micro de BFM et son français parfait, il parle 8 langues. Le roi de Crin-Djabo, lui aussi, veut rendre hommage à Notre-Dame. Vous ne connaissez pas Crin-Djabo, c'est la capitale du royaume de Sanoui, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Le monarque qui va faire un don, car savez-vous que dans les années 1700, Louis Aniaba, un prince du royaume, avait été baptisé à Notre-Dame de Paris. Louis XIV le distinguera plus tard de l'ordre de l'étoile de Notre-Dame. Autre hommage plus religieux au Sénégal, là, le cardinal Théodore Adrien Sarr, l'archevêque émérite de Dakar chez nos confrères de RFI.
C'est très douloureux à voir une église de cette envergure, de cette qualité artistique. Je pense à tous chrétiens, mais même je pense aux hommes de bonne volonté, aux hommes de culture. C'est évident qu'on ne peut que ressentir douleur et désarroi. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé. J'ai eu l'occasion de la visiter plusieurs fois avec des pèlerins sénégalais. Ici au Sénégal, nous avions un pèlerinage tous les 2 ans au lieu saint de la chrétienté en Terre Sainte, à Rome. Souvent aussi on passait à Lourdes, puis on repartait de Paris. Donc nous prenions au moins une journée pour quand même faire une visite de Notre-Dame de Paris.
Et un dernier hommage, pas religieux celui-ci, beaucoup plus sportif, celui des fans du patineur japonais Yuzuru Hanyu. Nombreux sont ceux qui repostent depuis hier sur les réseaux sociaux la vidéo de son programme sur glace aux Mondiaux de 2013.
This is a program choreographed by David Wilson to selections from Notre Dame de Paris soundtrack.
Notre Dame de Paris soundtrack.
Exactement, vous l'avez compris, un programme de danse sur glace chorégraphié par David Wilson et surtout sur la musique donc de Notre Dame de Paris, la comédie musicale de Richard Cochante. C'est kitsch, il y a trop de paillettes sur le costume du patineur, mais la croix qui barre son juste au corps, la couleur noire aux jambes, rouge brûlant sur le buste et blanc sur le haut, c'est kitsch mais émouvant quand même aujourd'hui.
Allez, de l'île Saint-Louis donc à Paris où trône Notre Dame, on le sait, nous partons à Saint-Louis aux États-Unis.
Là, ce ne sont pas les flammes qui ont attaqué la cathédrale, mais une tempête, le vent et la pluie. Hasard des éléments, la plus vieille cathédrale catholique à l'ouest de la rivière Mississippi a, elle aussi, subi un rude assaut, nous dit ce reporter de Fox 2. C'est aussi le plus vieux bâtiment encore debout à Saint-Louis, dit le reporter, et la pluie a ravagé ce sanctuaire. Et le père Richard Quirk de préciser à son micro. Alors les dégâts concernent surtout le toit, le plafond est en plâtre, mais au-dessus c'est une charpente en bois qui a été installée en 1834, donc maintenant on doit inspecter tout ça. Alors les catholiques de Saint-Louis devront eux aussi trouver un autre endroit pour les messes du jeudi saint ou de Pâques, tous les offices ont été annulés.
Voilà, 1834, c'est là qu'on voit aussi les...
Oui, nous on a un petit peu
un
plus d'ancienneté.
Un petit peu un poil plus vieux, et en même temps voilà, c'est triste aussi. Merci aussi. Beaucoup Amélie Perrier, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mika. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et vous voyez au fond tout se tient puisque c'est à Saint-Louis que je vous emmène pour l'escale reportage à Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis, l'ancienne capitale coloniale française évidemment. Bonsoir William Delesseux.
Bonsoir Fabienne.
William, c'est une grande majorité des habitants là qui vit de la pêche, mais plusieurs familles ont dû quitter le quartier et ont été déplacés vers l'intérieur des terres. Les pêcheurs subissent ces dernières années les conséquences de l'érosion côtière. Il y a un an, le président français avait promis des investissements pour lutter contre cette érosion. Sur place, le quartier des pêcheurs est rongé par la mer et les habitations s'effondrent. Et on écoute, William, votre reportage.
Genda, c'est le nom du quartier des pêcheurs de Saint-Louis. Devant l'océan s'étend la plage qui se résume à un mur de béton effondré, enchevêtré dans de l'acier rouillé. Plusieurs habitants ont dû partir. L'érosion côtière oblige depuis 2 ans des familles à quitter les lieux. Certains refusent, restant jusqu'à l'effondrement de leur maison. Cette jeune femme a perdu en pleine nuit son père et sa sœur.
Bonjour, je m'appelle Irma Fall. Je suis la fille du vieux qui est mort. C'est une vague qui est venue frapper le mur et elle a tombé sur mon père. Ensuite, l'autre mur est tombé sur les enfants et ensuite l'armoire. Et ma maman a crié, les voisins ont venu pour ressortir mon père qui était vieux, qui était aveugle même. Ensuite, on cherchait les enfants sur les gravats. On n'attendait pas cela. Donc, on savait que la mère menace, mais de cette manière, on n'attendait pas cela. Donc, parce qu'il y a des maisons plus proches que la mère, alors qu'ils n'ont pas détruit de cette manière. Donc, c'est une chose qui est venue subitement. On n'attendait pas une chose comme ça. On n'a pas où habiter. Et on n'avait que notre père qui faisait tout pour nous. Donc, on est seul. On est très vulnérable.
Devant, une digue est en cours de construction par l'entreprise française Eiffage. Un financement de la même origine. L'Agence française de développement a déboursé 16 millions d'euros après la visite d'Emmanuel Macron en février 2017. Pour le jeune activiste Maktar Ndiaye, cette digue ne permettra pas de limiter le phénomène d'érosion.
Cette digue n'a pas tenu le temps d'une houle, malheureusement. Donc l'année dernière, avec la houle, cette digue s'est affaissée. Donc moi, je pense qu'il faut aller vers une solution durable. Je lance un appel, moi, personnellement, aux décideurs. Je lance un appel à l'État du Sénégal. Je lance un appel aux partenaires financiers, parce que Saint-Louis est en train d'être rayé de la carte du Sénégal.
Pour d'autres, il y a des raisons d'espérer. Jean-Marie Dupart réside au Sénégal depuis une trentaine d'années. La plage va se reconstruire naturellement, assure ce défenseur de l'environnement.
Les niveaux de plage sur la partie océanique de Guendar sont en train de remonter. Et donc l'érosion côtière est en train de s'arrêter petit à petit. C'est moins brusque et moins rapide que l'érosion, mais ça se reconstruit tout doucement.
Le sexagénaire a écrit une étude accablante pour le gouvernement sénégalais. D'après lui, c'est le percement d'une brèche au sud de Saint-Louis en 2003 qui cause l'érosion côtière sur la plage. Objectif initial, limiter les inondations. Cette grande ouverture s'appelle la brèche dans la langue de Barbarie.
La vraie raison, c'est une erreur humaine. Le problème, c'est que cette brèche, elle a fait ce qu'elle a voulu et elle est passée en 10 ans de 5 mètres à 6 km. Et aujourd'hui, la nature veut la recombler. Et donc, on a ce phénomène de sable qui se réaccumule dans la brèche et qui est érodé au nord. Et donc, c'est vraiment de l'erreur humaine et tout est lié.
Tout est lié car les pêcheurs de l'île souffrent aussi du percement de la brèche au quotidien. À cause des bancs de sable formés dans l'ouverture, les pirogues chavirent. 400 pêcheurs sont morts depuis 2003. Pour passer du fleuve à la mer, pour aller pêcher tous les jours, il faut emprunter cet itinéraire. Sur les rives du fleuve Sénégal, des pêcheurs sont assis sur les quais. Beaucoup n'ont pas pris la mer ce jour-là, bien trop risqué.
Les pêcheurs ne peuvent pas travailler parce que c'est très dangereux. S'il y a un bon temps, nous pourrons travailler, gagner de l'argent facilement. Il faut être prudent à la mer. Mais les pêcheurs sont très têtus, sont très, très, tellement têtus. Moi, je ne suis pas têtu, je suis prudent. Nos amis, nos frères meurent sur la mer, ça c'est pas normal.
À quelques kilomètres, la houle est forte, la visibilité est réduite. Au large, une pirogue est bloquée, elle ne pourra pas pénétrer à nouveau dans le fleuve et restera avec ses occupants toute la nuit sur l'océan. Chaque année, à Guendar, transitent près de 90 000 tonnes de poissons. Dans le quartier, on est pêcheur de père en fils depuis parfois 5 générations.
Les enfants, c'est eux qui travaillent pour la maison, la famille et tout ça, pour les besoins de la famille.
S'ils avaient le choix de ne pas partir?
Non, ils n'ont pas le choix parce qu'ils agissent sous l'autorité parentale. On n'a pas le droit de dire non. La pêche, elle est bonne. Mais ce qui ne va pas, mais c'est la brèche. Notre handicap, c'est la brèche. Seulement la brèche, seulement. On ne veut rien. On veut simplement qu'on répare la brèche.
Réparer la brèche, c'est le projet du gouvernement pour éviter de nouveaux drames. L'État a investi 5 milliards de francs CFA, près de 8 millions d'euros en vue de creuser et de baliser la zone. Réchauffement climatique, aménagement fautif. où situer les responsabilités de tous les drames. Pour le géographe sénégalais Bouboussi de l'université Gaston Berger, le recul n'est pas encore suffisant.
L'État doit mettre en place un phénomène de suivi et d'observation. Et c'est au sortir de tout cela qu'on peut concevoir et dimensionner des ouvrages qui minimisent, pas qui arrêtent, ça c'est difficile, qui minimisent de façon quand même, c'est, ne serait-ce qu'à l'échelle historique, ce phénomène pour permettre aux populations quand même de prendre un peu d'élan, pas de, d'être déguerpies sous pression.
Des études sur le terrain sont toujours en cours afin de trouver une solution durable. Mais en fonction des aménagements du littoral de la région, l'érosion pourrait s'aggraver avec les années. Le poumon économique de l'île, le quartier des pêcheurs, serait alors proche de la disparition. La houle de l'Atlantique attaquerait alors le cœur de Saint-Louis.
William Delesseux au Sénégal pour RFI et pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Rhythm is Love, nous dit Kezia Jones sur France Inter. Merci.
Feeling called musical. Hey yeah. Hey yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. Color is lust, because all of the sexual things we do, in my mind I trust you to make them all colorful. Hey yeah. Walk the wintry boulevards. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. Is that a smile I see? Maybe you're not even looking at me. If you smile for no reason, the season is lost. If your love is the rhythm, my rhythm is love, baby.
Inusable, Kezia Jones, Rhythm is Love, sur France Inter. Julia Foyce, mesdames et mesdames, met dans la place.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saintès.
You're all scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
La chronique pour tous de Julia Foyce, tous les mardis évidemment. Et vous nous donnez, Julia, des nouvelles des femmes dans le monde, bonnes comme mauvaises. On commence aujourd'hui par la pub de la semaine.
C'est à IKEA Belgique qu'on la doit.
This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah.
On est en pleine nuit, dans une chambre à coucher, dans le plus grand silence. Les tiroirs s'ouvrent et se referment doucement. Les habits vont s'y ranger tout seuls comme des grands, ce qui, en soi, serait assez génial si c'était possible et si c'était la question. Mais non, elle est plutôt dans le lit, la question. La caméra s'y glisse, nous invite à la suivre. Un visage de femme, endormie. À ses côtés, une autre femme, tout aussi endormie et paisible. Le plan d'après, il fait jour. Entre elles deux, toujours sur le lit, un enfant. A priori, ça n'est pas celui de la voisine. Zoom arrière, on va les laisser jouer tranquilles. Sur l'écran, ce slogan, une bonne journée commence par une bonne nuit. Point. Sans commentaire. Il y a près de 10 ans, IKEA avait déjà mis en scène un couple homosexuel. C'était pour l'ouverture d'un magasin en Italie. Sur l'affiche, on voyait deux hommes main dans la main, de dos. Et cette formule, nous sommes ouverts à toutes les familles. Un ton clairement militant. Donc, alors qu'ici, au contraire, rien n'est surligné. On est déjà à l'étape d'après. C'est une famille homoparentale. Et alors, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Ah! mais peut-être parce que c'est la chose la plus normale au monde, en tout cas dans un pays, la Suède, qui fut le premier à autoriser le mariage religieux à deux personnes du même sexe. Ça l'est. Chez nous, comment dire, c'est drôle comme on peut parfois sentir la naphtaline. Au moment où Ikea se faisait un joli buzz sur Twitter avec cette pub, le compte Pépite Sexiste repérait cette pancarte au rayon petit pot d'un supermarché français. Je cite, hein, « Ta femme t'a envoyé aux courses et tu t'es perdu au rayon bébé. Impressionne-la et rentre à la maison avec du bip bip, nom de la marque. Ta femme t'a envoyé aux courses et tu t'es perdu. Je crois que je vais aller vivre en Suède, moi. »
Allez, les excuses de la semaine, Julien.
C'est du côté du Sussex en Grande-Bretagne qu'il faut aller les chercher. Tout commence il y a 3 ans. C'est la première fois que Shana se rend au commissariat. Elle a 19 ans. Elle est harcelée par son ex-petit ami. Menaces, agressions physiques, intrusions au domicile. Tout y est, mais rien ne suit. Sa plainte est enregistrée, mais sans qu'aucune mesure de protection ne soit mise en place. Merci madame, vous repasserez. Shana repasse d'ailleurs 5 fois en 6 mois et la police ne fait toujours rien. Ah si, pardon. L'ex-petite amie reçoit un avertissement quand Shana, elle, écope d'une amende de 90 livres pour avoir fait perdre son temps aux forces de l'ordre. Un temps qui, cela dit, ne leur a pas servi, par exemple, à fouiller le casier judiciaire du bonhomme, sinon ils auraient pu retrouver la trace de 13 femmes qui avaient déjà porté plainte contre lui pour harcèlement. Mais non, 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 pas la peine, on fouille pas, on n'enquête pas. Alors le 25 août 2016, Shana meurt, assassinée par l'ex, évidemment. Aujourd'hui, 2 des agents sont poursuivis pour négligence grave et le chef de la police du Sussex a quant à lui présenté ses excuses à la famille. Nous n'avons peut-être pas fait tout ce que nous pouvions faire pour éviter la mort de Shana. Ah bon ?
Allez, Julia, on termine avec la question de la semaine.
Est-ce vraiment à la chercheuse Cathy Bouman qu'on doit la première photo du trou noir ? Question posée par checknews.fr, site de vérification d'infos du journal Libération et reprise en boucle ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Alors, je la refais hein, pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents. La semaine dernière, un premier cliché fait le tour de la planète, celui de ces fameux trous noirs, un événement qui dépasse très largement le monde scientifique, même les médias, les plus grands publics, relaient cette prouesse technologique, mais très vite, un deuxième cliché tourne en boucle. Le visage souriant de Cathy Bouman, jeune chercheuse au MIT, à qui l'on doit, dit-on, l'algorithme qui a permis de prendre ladite photo. Pluie de félicitations sur la jeune femme. Nancy Pelosi elle-même, présidente de la Chambre des représentants, la remercie pour l'exemple qu'elle donne à toutes les jeunes femmes du monde. Héroïne ou superstar, la presse internationale n'a pas de mots assez forts pour la qualifier. Alors évidemment, ça finit par énerver, on trouve ça louche, on interpelle, on pinaille. Mais dites-nous, elle n'était pas toute seule la petite à travailler dans son coin, non, il y avait des gens avec elle, ok? Alors franchement, réserver les lauriers à une seule unique personne, tout ça parce que le MIT a voulu se faire un joli coup de com' parce que c'est une femme, qu'elle est jeune et qu'après-midi tout, c'est bon pour l'image. Oui, bien sûr, d'accord, ça sent un peu le féminisme à peu de frais et à grands coups de pub, mais dans ce cas... On va dire que la prochaine fois qu'un homme se voit attribuer le Nobel ou toute autre distinction, découverte, palme ou prix, on appelle Check News et les autres pour vérifier s'il n'y a pas derrière lui une équipe de 200 personnes. À noter que Cathy Bouman elle-même n'a cessé de répéter sur Facebook, comme en interview, que cette photo était le fruit de 12 ans de travail mené par toute une équipe. Disons qu'elle a eu la classe de partager le gâteau, elle.
Allez, Julia Foy, c'est ben nous aussi, tiens, on n'est que des filles, à part Fabrice, le réalisateur, le pauvre.
Le 18-20. Fabienne Synthèse sur France Inter.
Allez, le monde à l'envers et Jean-Marc Four, on le raconte depuis ce matin, les médias, Jean-Marc, de toute la planète font leur gros titre évidemment sur l'incendie qui a ravagé Notre-Dame hier. Et la lecture de ces médias est extrêmement révélatrice. Elle en dit long sur l'image de la France à l'étranger, mais aussi sur la préoccupation des pays étrangers en question. Donc il y a un effet miroir pour tout le monde et c'est votre monde à l'envers.
Alors les images ont fait le tour du monde parce qu'elles sont très spectaculaires, mais aussi parce qu'elles sont interprétées, extrapolées comme un symbole de la France, plus ou moins à juste titre. D'ailleurs, je m'explique. Avec raison, les médias étrangers soulignent, comme Die Zeit par exemple en Allemagne, que cette cathédrale c'est le centre de la France, le point zéro d'où partent les routes et les décomptes kilométriques de ce pays centralisé, l'âme de la France. Et cette cathédrale c'est aussi, comme la France, une vieille dame, ça c'est l'expression du quotidien argentin Clarín. C'est enfin le symbole d'un pays laïque et religieux à la fois. Pour le New York Times, Notre-Dame c'est un symbole mystérieux, non rationnel, non cartésien, au cœur d'un pays qui se veut cartésien. Mais ça va beaucoup plus loin dans l'interprétation. Pour une partie de la presse étrangère, le vrai symbole, ce n'est pas Notre-Dame, c'est l'incendie. Certains articles y voient carrément la fin d'un pays qui se croyait indestructible. L'incarnation, écrit à nouveau le New York Times, d'un pays dans la tourmente, en perte de repères et de confiance, en quête d'identité. Comme s'il n'y avait pas de hasard à voir les flammes se déclarer au moment précis où le président de la République essaie de mettre un terme à cette longue crise sociale des gilets jaunes. Ça sent quand même la surinterprétation, mais cette analyse très répandue, c'est un bon indicateur du regard porté porté sur notre pays par plusieurs pays étrangers. L'incendie de Notre-Dame, c'est la France en plein doute.
Et alors vous le disiez, effet miroir, Jean-Marc, aussi pour les pays étrangers eux-mêmes.
C'est le propre du symbole universel, on le sait, hein, chacun y voit ce qui l'arrange, ce qui l'obsède, et il n'y voit pas la même chose que le voisin, vous allez comprendre. Prenons les pays à forte population catholique, l'Italie, l'Espagne, l'Amérique latine. Alors là, on y parle beaucoup aujourd'hui du sauvetage, des reliques, de l'autel, du trésor. C'est presque ça le sujet principal. Et on retrouve cette préoccupation dans la presse des pays musulmans. Par exemple, Al Jazeera, comme un lien entre religions monothéistes. Deuxième exemple, regardons à présent l'éditorial du Guardian, grand quotidien britannique opposé au Brexit. Que retient notre confrère de l'incendie d'hier soir? Je cite « Ce bâtiment appartient à la civilisation européenne. Dans un moment comme celui-là, il est insensé de prétendre que nous ne sommes pas européens. » Pour le Guardian, Notre-Dame, c'est l'Europe et le Royaume-Uni en fait partie. Même tonalité dans la Repubblica en Italie et autres journaux pro-européens. Notre-Dame est une partie de notre identité européenne. De l'autre côté de l'Atlantique, toute autre préoccupation, le Washington Post par exemple, ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec les attentats de 2015 en France ou avec le 11 septembre 2001 et l'effondrement des tours. Ça a pourtant pas grand rapport, mais c'est un bon révélateur d'une vision américaine où la question du terrorisme n'est jamais absente.
Et comment les médias étrangers voient la suite sur Marc ?
Là, il y a une forme de paradoxe parce qu'on l'a vu, donc ils décrivent souvent une France en plein doute et en même temps, ils sont persuadés que Notre-Dame et donc la France vont se relever comme une confiance dans la résilience française. En Italie, la Stampa fait référence à la Fenice, ce célèbre théâtre de Venise, deux fois détruit par des incendies, deux fois reconstruit, vous ferez comme nous. Le New York Times raconte lui combien dans l'histoire Notre-Dame a changé maintes fois de visage, saccagée, reconstruite, modifiée. Eh bien ce sera le cas une fois encore. Et le Guardian, à nouveau lui, ajoute « Notre-Dame se relèvera, la France survivra, elle a survécu à tant de choses et les Français se retrouveront ».
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers, merci beaucoup. Vous avez entendu le bourdon de 19h, ça veut dire qu'il est 19h.